Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors, une émission que nous avons baptisée Polaire, Polaire comme politique et éducation populaire. Une émission d'actualité politique. Hein. La crise sociale et économique s'aggrave, les inégalités s'accroissent, l'environnement est sacrifié. Concomitamment, la concentration des médias capitalistes s'accélère et le fonctionnement de la presse s'inscrit dans une ubérisation accrue. Polaire se propose d'apporter au champ de l'information des perspectives politiques d'une transformation radicale. Polaire débute sa diffusion dans un contexte marqué par la loi de sécurité globale et de nouvelles attaques contre le droit d'informer. Polaire entend défendre le droit d'informer et entend transformer les médias en refusant la mutilation d'une information dans laquelle sont effacés les enjeux politiques. Alors aujourd'hui, je suis avec Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Alors Fanny, tu es membre de l'UCL, qu'est-ce que c'est ?
C'est une bonne question. L'UCL, c'est donc l'Union communiste libertaire. C'est une organisation de transformation sociale radicale qui est clairement sur une ligne anticapitaliste et anti-autoritaire et qui se distingue en cela de certaines organisations qui peuvent se réclamer du léninisme, notamment.
Alors, qu'est-ce que fait l'UCL ? L'UCL se présente aux élections, l'UCL fait des réunions, l'UCL s'investit dans quel type d'initiative ?
Alors l'UCL ne se présente pas aux élections, justement parce qu'on est donc dans une perspective révolutionnaire. Par contre, on est présent dans les mouvements, dans les différents mouvements de travailleurs. On essaye d'être au plus près de ce que vivent les gens, donc notamment. On participe aux manifestations, aux différentes grèves et mobilisations qui peuvent exister. Et on essaye également de faire un minimum d'informations vis-à-vis de ce qui peut, se passer dans la vie quotidienne des gens liés justement à la société capitaliste dans laquelle on vit.
Très bien, merci Fanny. Alors, pour cette première émission de Polaire, on a choisi, dans ce dialogue que nous allons avoir, Fanny et moi, d'échanger autour de la rentrée sociale. Hein. Le contexte, on le connaît. Il y a des manifestations. Hein. Le 23 septembre, c'était les enseignants. Le 1er octobre, les retraités. Le 5 octobre, manifestation interprofessionnelle. Et puis, tous les samedis, depuis le début de l'été, il y a des manifestations anti-pass qu'il faut aussi inscrire dans le contexte de cette rentrée sociale. Alors comment est-ce que tu vois ça justement, Fanny, cette rentrée sociale ? Et puis peut-être une question préalable, est-ce que ça signifie un aiguisement, un accroissement de la lutte de classe ?
C'est compliqué de répondre de façon très tranchée à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a en tout cas, ce qu'on peut percevoir, c'est une conscience assez forte, effectivement, des inégalités et surtout des difficultés quotidiennes pour la survie de beaucoup de personnes, y compris dans un pays théoriquement riche comme la France. Après, ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir du mal sur des grands mouvements à se mobiliser, notamment pour le 5 octobre. En revanche, on peut observer un certain nombre de mobilisations locales importantes, des grèves locales dans certaines entreprises. Et donc ça montre effectivement qu'il y a quand même la conscience du fait qu'on peut lutter et que tout le monde ne part pas forcément battu d'avance. Ça, je pense que c'est un point important. Ça montre aussi, à mon sens, que la lutte s'ancre quand même souvent dans la vie quotidienne et locale des gens. Et je pense que là encore, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, en ce qui concerne les mouvements dont tu as parlé à l'instant, je pense qu'il faut faire la différence entre certains d'entre eux. Dire que les mobilisations autour du pass sanitaire sont, à mon avis, pas exactement les mêmes que les manifestations, par exemple, du 5 octobre. C'est-à-dire que c'est toujours évidemment très compliqué de savoir jusqu'à quel point les médias n'amplifient pas un certain nombre de points. Néanmoins, les manifestations du pass sanitaire, telles qu'on peut les voir, sont quand même une forme de bouillie dans laquelle il peut y avoir des gens qui viennent d'horizons politiques très divers, dont certains ne sont pas franchement des copains. Et je pense qu'il est important d'avoir, d'être quand même assez vigilant vis-à-vis de ça, sur le fait que manifester à côté de quelqu'un, ça n'est pas anodin. Ça a un sens. Et que ce n'est pas du tout faire le jeu du gouvernement que de le rappeler. Je pense que c'est vraiment important. Le gouvernement, on peut le combattre avec des gens qui sont sur les mêmes positions que nous. En ce qui concerne, après, la position de l'UCL sur le pass, on est évidemment totalement contre. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'on soit contre la vaccination, loin de là. Les vaccins, quels qu'ils soient, ont quand même globalement fait les preuves de leur succès, même si on est bien sûr conscient qu'il a pu y avoir quelques dérives. Mais on peut aussi comprendre la méfiance vis-à-vis de ce vaccin, d'après moi, par les différents scandales sanitaires qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Je pense par exemple au Mediator, mais il y en a eu évidemment beaucoup d'autres. Après, sur les autres points de rentrée, effectivement, il y a eu la mobilisation des enseignants, la mobilisation autour des retraites et la mobilisation interpro du 5 octobre, qui, même si elle n'a pas vu grand monde dans la rue, a quand même été un relatif succès sur un point, c'est que les organisations syndicales ont réussi globalement à s'unir là-dessus, et des personnes d'univers différents ont réussi également à s'unir. Et ça, je pense que c'est important. Après, il faut quand même bien voir que, en ce qui concerne par exemple la réforme de l'assurance chômage, elle va complètement à contre-courant de la réalité de ce que vivent les gens au quotidien dans leur rapport au travail, dans la mesure où elle entend reprolonger la durée de cotisation pour pouvoir prétendre aux allocations chômage, alors même que les emplois sont de plus en plus courts, les contrats de travail sont de plus en plus courts. Et ça, je pense que c'est quand même important de le faire entendre. En 2019, par exemple, d'après la DARES, il y avait quand même 87% de CDD dans les embauches, ce qui est évidemment énorme. Et parmi ceux-là, 85% des CDD arrivés à terme avaient duré moins d'un mois. Donc on voit bien que dans ce cadre-là, demander aux gens d'avoir cotisé au minimum 6 mois pour pouvoir profiter des allocations chômage, c'est complètement scandaleux. C'est vraiment, mettre les gens sciemment dans la misère. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On sait par ailleurs, donc ça c'était les chiffres de 2019, mais que depuis 2020 et bientôt à la fin 2021, le Covid est également passé par là, a également détruit un certain nombre d'emplois. Et ça, je pense que c'est également quelque chose dont, sans être même particulièrement révolutionnaire, un gouvernement qui se rend vaguement compte de ce que vivent les gens aurait dû quand même tenir compte. Ensuite, sur la réforme des retraites, pareil, on sait bien que le système par points pénalise les carrières courtes, et notamment les carrières féminines particulièrement. Et là encore, de la part d'un gouvernement qui prétend, dans de grands discours, lutter contre le sexisme, contre les inégalités hommes-femmes, etc., il y a quand même quelque chose de complètement schizophrène là-dedans. Et ça me paraît également très important à avoir en tête. De façon générale, et je pense que c'est aussi ce qui peut expliquer le fait que différentes catégories professionnelles aient pu se retrouver au moment du 5 octobre, y compris la fonction publique, qui est a priori moins touchée par la question de l'assurance chômage, c'est qu'il y a aussi une casse des services publics. Alors, c'est pas neuf de dire ça, hein, mais qui s'est quand même accrue ces dernières années, avec notamment un recrutement de contractuels et de vacataires de plus en plus important, avec également, notamment dans l'enseignement, un pouvoir accru accordé aux directeurs d'école, ou même l'idée de pouvoir recruter localement selon des critères qui jusque-là étaient plutôt ceux du privé que ceux du public. Et du coup, évidemment, les problématiques que rencontrent l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, que ce soit du public ou du privé, se rejoignent de plus en plus. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose également à avoir en tête. Alors, ça ne signifie pas du tout qu'on s'en réjouisse, parce que c'est plutôt un nivellement par le bas que le contraire, hein. Mais en tout cas, il me paraît absolument important de le constater là-dessus. Et ce qui est terrible, c'est que sous prétexte, et c'est le cas aussi pour la question de la réforme des retraites, d'égaliser les différents systèmes, on prend toujours le moins disant socialement et absolument pas le mieux disant. Et à ce titre-là, c'est évidemment le contraire qu'il nous faudrait faire en tant que défenseurs des travailleuses, des travailleurs et globalement des personnes les plus opprimées de ce système.
Alors je rebondis sur différents points que tu viens d'aborder pour peut-être donner des opinions dans notre échange. Alors, peut-être d'abord sur la question de la vaccination. Moi, je voudrais peut-être rajouter la question des brevets sur les vaccins. Moi, ça me semble important de rappeler que les biens communs, ça a une signification, hein, que le savoir, c'est un bien commun, et le savoir immatériel sur les avancées de la science, ça devrait être un bien commun. Et donc, bien commun, ça veut dire qui appartient à l'ensemble de l'humanité, des hommes et des femmes. Et que par conséquent, il y a lieu de supprimer ce système de brevets sur les vaccins. Sans doute que ça passe par la socialisation, hein, des entreprises pharmaceutiques qui développent ces vaccins. Voilà, ça, c'est un point que je voulais compléter sur ce que tu venais de dire. Alors, sur la question des attaques assurance chômage et retraite, alors effectivement, hein, l'assurance chômage va baisser les allocations de plus d'un million de personnes, alors qu'il y a déjà 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Et puis le patronat ne propose que de travailler plus, et de plus en plus. Donc on le voit actuellement, là, l'ensemble des candidats de droite à la présidentielle reprennent cette ancienne en permanence. Voilà, alors tu évoquais effectivement ce type d'attaque. Moi, j'ai été frappé cette semaine, hein, c'est pas très vieux, hein, le 11 octobre. Roux de Bézieux, c'est le président du MEDEF qui était interviewé par les Échos. Donc lui, il dit « Les hausses salariales généralisées ne sont pas soutenables pour l'économie. Il faut arrêter les dépenses de fonctionnement. » Et ça rejoint ce que tu disais, hein, restreindre les salaires des territoriaux, des soignants, dans les hôpitaux, dans les tribunaux aussi, c'est la même, quand tu parles du service public, c'est la même logique, hein. Le SMIC a été augmenté d'une manière misérable, hein, et dans la fonction publique, ce que tu évoquais, il y a un blocage des salaires des fonctionnaires, salaires qui sont bloqués depuis des années, avec disparition des primes, etc. Alors que par ailleurs, les profits sont largement en hausse.
C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui serait presque drôle en fait dans la phrase que tu viens de citer, c'est qu'on peut quand même pas dire que les patrons du MEDEF, eux, de leur côté, se serrent la ceinture et baissent leur propre salaire ou revenus. Donc c'est vraiment ce double discours qui est complètement insupportable en fait. Et je pense que ce caractère insupportable, hypocrite, est quand même de plus en plus visible. Et par rapport à ce que tu disais également sur la question du service hospitalier et la question des brevets, on est évidemment d'accord, hein, sur le fait que la question des brevets est une vraie question et pourrait sans doute d'ailleurs, si effectivement c'était socialisé, résoudre en partie la question des scandales sanitaires dans la mesure où c'est quand même la course au profit qui les produit. Et puis effectivement, lors du premier confinement, je pense qu'on s'en souvient tous, il y avait une forme de rêverie généralisée autour du monde d'après. Et puis l'idée également que finalement, on prétendait s'apercevoir que les emplois les moins rémunérés, les plus invisibles étaient finalement les plus importants. Et force est d'admettre que un an et demi après, hein, absolument rien n'a changé. Non seulement dans les emplois extrêmement pénibles et peu rémunérés comme le service à la personne, comme le ménage, etc. Mais également dans les postes qui ont été les plus sollicités à ce moment-là, qui sont effectivement ceux du service hospitalier, hein. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument scandaleux. Et on voit bien que globalement, la surcharge hospitalière qu'il y a pu y avoir au début et lors de la deuxième vague du Covid, sont quand même en grande partie liées à des choix qui ont été faits depuis maintenant des décennies en termes de gestion des hôpitaux.
Ah, peut-être une question, puisqu'on a évoqué la socialisation. Qu'est-ce que ça signifie pour vous à l'UCL, socialiser une entreprise, socialiser les moyens de production? Ça veut dire quoi? Ça veut dire nationaliser? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors à l'UCL, on n'est pas franchement pour le concept de la nation. Hein. Non, l'idée, ça serait quand même plutôt de permettre aux personnes qui sont au premier plan, hein, de ces questions, notamment aux personnes qui travaillent dans tel ou tel domaine, de pouvoir avoir la, enfin, de pouvoir s'autogérer tout simplement, c'est-à-dire décider de l'organisation du travail, de la production, si production il y a, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait que ce sont les personnes qui sont en première ligne qui s'organisent collectivement, évidemment, mais comme elles l'entendent collectivement.
Alors, si tu veux bien, Fanny, on va revenir sur les luttes hein, qui se développent. Hein, tu évoquais un peu différents secteurs qui sont concernés. Comment est-ce que tu vois un petit peu ce... Est-ce que la marmite, elle bout ? Quelle est la température ?
Je pense que c'est vraiment difficile de répondre de façon générale parce que les situations sont quand même très différentes. Et je pense que c'est quand même un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur des mobilisations d'appels, enfin voilà, interpro, d'appels à la grève générale, à la fois c'est important qu'elles aient lieu. Et en même temps, finalement, on arrive plus facilement à se mobiliser sur des questions relativement locales pour l'instant, ce qui signifie absolument pas qu'il ne puisse pas y avoir de convergence après. Mais c'est vrai qu'il y a par exemple une grève à l'usine Renault de Cléon, etc. Toutes choses dont on entend assez peu parler dans les médias, mais qui pour l'instant restent effectivement sur des points relativement locaux, même si ce sont souvent sur des points qui pourraient concerner un ensemble plus vaste de personnes, hein, puisqu'il s'agit souvent de questions salariales.
Alors peut-être, moi j'ai eu l'occasion de faire un reportage hein, à l'occasion de la manif du 5 octobre, durant la manif à Lens, hein, le 5 octobre au matin, sous une pluie battante d'ailleurs, ce qui explique peut-être qu'il y ait aussi le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup, beaucoup de monde. J'ai interrogé différents camarades syndiqués dans des boîtes, hein, Veolia, la SNCF, McCain. Alors j'ai vraiment constaté une réelle prise en compte d'un constat de l'exploitation, constat de des abus financiers. En plus, c'était deux jours après les Pandora Papers. Constat des inégalités absolument scandaleuses, hein, en matière de ressources, en matière de salaire, constat de la précarité. Autrement dit, il y a un vrai constat du fait que ça, en face, ça cogne. Ça, c'est... Mais par contre, concernant la riposte et l'organisation d'une riposte, là, ça me semblait beaucoup plus difficile. Et dans les personnes que j'ai interrogées, c'est une question qu'on n'aborde pas. Autrement dit, soit on l'aborde pas, soit on se dit que c'est compliqué, que c'est pas le bon moment, qu'on ne sait pas le faire.
Je pense qu'il y a différentes raisons à cela. La première chose, c'est qu'effectivement, on a quand même tous grandi dans une société qui, si elle est de plus en plus violente, a quand même relativement peu évolué. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer autre chose, en fait. C'est la première chose. Après, j'en parlais rapidement tout à l'heure quand je mentionnais l'importance des CDD dans les embauches. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'emplois précaires et on sait que ça ne facilite évidemment pas la syndicalisation, la lutte de classe, parce que tout simplement, on se retrouve extrêmement isolé et également, on craint pour son emploi. On va de CDD courts en CDD de plus en plus courts. Et forcément, l'organisation devient compliquée. Pas uniquement d'ailleurs parce qu'on craint pour l'emploi, comme je viens de le dire, mais également parce que il est difficile de connaître ses collègues dans ce genre de conditions et donc il est forcément difficile de s'organiser collectivement. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important. Après, il y a évidemment l'importance des médias de masse hein, qui donnent quand même comme des faits absolument incontestables des allégations qui sont globalement celles des patrons ou du gouvernement. Et avec des pseudo-experts hein, qui sont quand même toujours les mêmes sur tous les plateaux télé ou sur toutes les radios. Et ça, évidemment, ça ne facilite pas non plus l'échange. La dépolitisation des idéologies capitalistes, en fait. C'est-à-dire le fait que ce soit présenté comme un état de fait, comme une réalité économique, et non pas comme un système idéologique qui... Après tout, pourrait très bien susciter l'adhésion de certaines personnes, mais aussi forcément la contestation d'autres.
Tu n'évoques pas du tout les syndicats, les directions syndicales ?
Non, c'est vrai, là je l'ai assez peu évoqué, mais on pourrait évidemment en parler. Oui, là j'allais rapidement. Oui, bien sûr, il y a aussi à la fois une dispersion syndicale, mais aussi, alors pas forcément... systématiquement, mais quand même une grosse défiance vis-à-vis des syndicats qui s'entendent très bien, parce que ça fait quand même de trop nombreuses années que les syndicats s'assiedent quand même très souvent à la table des négociations et présentent ensuite comme des victoires des micro-points qui ne changent pas véritablement la vie des syndiqués ou des travailleurs et des travailleuses. Et donc ça, je pense que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. C'est compliqué. Après, ça ne signifie pas pour autant qu'il faut cesser de se syndiquer, mais qu'il faille le faire de façon combative et sans forcément tout attendre des directions syndicales.
Par exemple, ces journées de mobilisation dispersées n'aident pas non plus à cette fameuse convergence des luttes dont tout le monde parle, mais que personne ne met en œuvre.
Oui, tout à fait. Ben, c'est exactement la même chose que, pour le coup, lors des élections, par exemple, présidentielles, où on peut avoir Mélenchon qui appelle un tel à se réunir, mais derrière son nom. Et effectivement, on a exactement la même chose au niveau syndical, c'est que tout le monde est pour la convergence des luttes, mais à condition d'être la personne qui soit en tête de cortège, d'être la personne qui... derrière qui tout le monde se range, et forcément, ça ne facilite pas vraiment les échanges. Et ça, c'est effectivement un point extrêmement important. Après, c'est un constat qui n'est pas franchement neuf non plus, hein. Ça fait longtemps qu'on peut déplorer cette situation. Mais c'est là que je pense que c'est vraiment à nous, à la base, hein, de véritablement essayer de changer les choses là-dessus, de se faire entendre en étant nombreux justement dans les luttes, en interpellant éventuellement les centrales syndicales. Et forcément, à partir du moment où on serait nombreux à le faire, le rapport de force, en tout cas, changerait forcément dans ce cadre-là. Et donc, un rapport de force, on l'a compris, qui n'est pas uniquement vis-à-vis du patronat, mais effectivement aussi vis-à-vis des centrales syndicales.
Il y a peut-être aussi un point pour être optimiste dans ce constat, c'est que sans doute que la crise sanitaire, l'imposition du pass sanitaire, auprès de nombreux travailleuses et travailleurs, elle a peut-être fait prendre conscience du rôle de l'État, le rôle de l'État qui était de dominer, de réprimer. C'est peut-être aussi un point d'appui pour plus tard, quand on aura effectivement mis en mouvement un certain nombre de travailleuses et de travailleurs qui ont aujourd'hui eu les yeux dessillés sur le rôle de l'État dans la gestion de cette crise.
Alors c'est possible, mais... personnellement, enfin voilà, moi de ce que je vois, c'est pas forcément ce que je vois le plus dans mon quotidien, mais évidemment, ça n'est jamais que mon expérience à moi. Hein, je dis pas qu'elle est universelle, mais j'ai le sentiment que finalement, à l'exception d'organisations comme la nôtre, qui est clairement pour le vaccin mais contre le pass sanitaire, parce que c'est évidemment un outil de domination et de surveillance. J'ai le sentiment donc que beaucoup de mobilisations anti-pass sanitaire, et je ne parle pas que des manifs anti-pass telles qu'elles peuvent être vues dans les médias, disons les discours anti-pass sanitaire peuvent être quand même souvent davantage liés à la question du vaccin, plutôt qu'à la question de la surveillance par l'État, de la domination, etc. Alors je me trompe peut-être, encore une fois, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, y compris encore une fois, hors tout contexte de manifestation, en discutant autour de moi. Bon, après, on sait forcément qu'il y a toujours, enfin voilà, qu'on ne connaît pas évidemment l'intégralité de la population par les discussions qu'on peut avoir autour de soi. Et l'une des difficultés aussi, alors donc en fonction des lieux dans lesquels on travaille, puisque la question du pass se pose à la fois pour pouvoir faire ses courses, mais aussi pour pouvoir travailler, hein, en tout cas jusqu'à une date récente, c'est que il y avait quand même certains bâtons, mais aussi une carotte, qui était le fait de pouvoir enlever son masque à partir du moment où on avait présenté le pass sanitaire dans son espace de travail. Et du coup, cette carotte, du constat que j'ai pu en faire à mon faible niveau, c'est qu'en fait, elle a finalement marché sur le plan, psychologique, dans le sens où on s'est dit, bon, bah, si le pass permet de ne pas porter le masque, après tout, pourquoi pas. Et donc, je pense que là-dessus, il y a quand même une forme de piège, hein, qui s'est installée. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément pour porter le masque partout, mais c'est quand même une surveillance bien moindre que de flasher un code. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, la conscience des dangers s'est un peu inversée, parce que ça paraît moins contraignant qu'un masque qui empêche quand même un peu de respirer, etc.
Moi, j'évoquais aussi le fait qu'on a pu se rendre compte que pendant la crise, l'État se porte au secours des capitalistes, finalement. Hein, aussi bien financièrement qu'en matière de leur donner la possibilité de gérer les travailleurs d'une manière très militaire, très autoritaire. C'est aussi cet aspect-là que j'évoquais, le fait qu'on a pu se rendre compte que finalement l'État n'est pas neutre et qu'il est complètement au service des grands groupes.
Oui, tout à fait, mais ça c'est effectivement des choses qu'on avait pu voir lors des crises précédentes, y compris par exemple lors de crises économiques, hein, le sauvetage des banques en 2008, etc. Voilà, il y a toujours, de toute façon, on a pu constater que lors d'une crise, la préoccupation numéro un de l'État, quel qu'il soit, hein, c'est effectivement de sauvegarder le système, et notamment de sauvegarder le système capitaliste. Ça, c'est une évidence. Et effectivement, la mise en place du pass, je pense que c'est un peu ton idée, c'est que c'est une façon de permettre, entre guillemets, aux entreprises telles qu'elles existent actuellement, de pouvoir continuer son activité et leurs activités, pardon, et donc ainsi de ne pas remettre en question l'organisation du système.
Bien, merci Fanny. Je ne sais pas si on va conclure cette émission, hein, qui moi m'a beaucoup intéressé. Est-ce que tu as des choses à rajouter ?
Non, il y a une chose qui me paraît importante, c'est qu'on a un petit peu parlé quand même de certaines compromissions des syndicats, de la difficulté qu'on peut avoir toutes et tous à se mobiliser. Moi, je pense que c'est quand même important de ne pas avoir l'impression que la balle est dans le camp des syndicats, parce que dans ce cas, effectivement, les centrales syndicales sont fortes. Et on ne peut que craindre leur compromission. Et je pense que c'est justement en étant, en se mobilisant, même à une échelle faible de notre côté, en discutant avec des gens, même éventuellement en dehors de toute organisation politique ou syndicale, qu'on peut arriver véritablement à faire entendre de façon concrète, hein, un autre son de cloche. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important.
Donc ça passe par des réunions, des assemblées des...
Je pense que la première chose, c'est déjà de discuter, ce qui est effectivement la réunion, l'assemblée, effectivement, même à un faible niveau, et puis ensuite, essayer de s'organiser, que ce soit quand c'est possible, même si on sait que c'est de moins en moins possible dans toutes les entreprises, des mouvements de grève, participer à des manifestations qui peuvent s'organiser de façon plus ou moins spontanée et qui permettent de faire entendre un autre son de cloche. Et ça, je pense que c'est, voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, oui, effectivement, la gestion du Covid a été une gestion, pour en revenir à ce que tu disais, complètement verticale, en fait, donc étatique en cela notamment. Et on a demandé l'assentiment d'absolument personne sur aucun point. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement violent et qui peut d'ailleurs expliquer aussi certaines méfiances vis-à-vis des solutions qui sont apportées actuellement, notamment la question du vaccin, dont on a quand même pas mal parlé lors de cet échange.
Bien, merci Fanny. Bonne continuation à toi et puis à bientôt pour un nouveau polaire, si tu le veux bien.
À bientôt.